suis venu pour échanger avec vous sur un certain nombre de choses. Le premier point, je voudrais vous raconter comment je suis rentré, moi, dans la vente directe par réseau. J'ai démarré, on m'a dit qu'il fallait que je passe mon bac, donc ça n'a pas été rien. J'ai dû atterrir avec le bac français, je devais déjà avoir 12 points de retard. Après, en maths, j'ai dû me prendre un 4 sur 20, juste histoire de me dire que j'avais passé une bonne année. Et puis, je suis allé le chercher au rattrapage, hein, parce que moi, je n'ai pas abandonné. Donc, je suis allé le chercher au rattrapage parce qu'en réalité, c'est une prof qui m'a motivé. Je me souviendrai toujours de son nom, Madame Schmitt, puisque j'avais décidé de m'engager dans l'armée et qui m'avait dit que de toute façon, dans l'armée, il ne fallait pas avoir un gros niveau pour y aller. Et donc, exprès pour l'embêter, pour ne pas dire un autre mot, j'ai dit, j'aurai mon bac, ça va te boucher le bec. Et donc, ça m'a motivé. Donc, il fallait chercher un truc pour me motiver. En l'été, sans le vouloir, elle m'a motivé. Je trouvais ça super. Ma prof de maths, quand elle m'a vu revenir avec mes bouquins, elle croyait que j'allais les chercher. Mais en l'été, ce n'était pas le cas, j'allais les ramener. Et puis, elle m'a dit, Pascal, vous êtes un miraculé. Donc, j'ai dit, génial, ça commence bien. C'était comme ça que, si vous voulez, donc voilà, je passe mon bac, je fais un an et demi d'armée. Et puis après, je vis une vie de professionnel plus ou moins enrichissante, parce que j'étais quelqu'un qui bougeait beaucoup. Je m'ennuyais très vite partout où j'allais. Si vous voulez, moi, j'avais quand vous repreniez mon CV, tous les deux ans ou trois ans, je changeais de boîte parce que j'avais l'impression de faire le tour rapidement. Puis quand je m'ennuyais, moi, il fallait que je passe à autre chose. Et puis, à l'époque, donc, je suis responsable des ventes dans le domaine de la photocopie. Et j'ai un commercial, Xavier, qui vient me voir. Et moi, je gagne bien ma vie, tout va bien, hein, je suis pas mal. C'était des bons salaires de l'époque, dans les années 90. Je sais pas, je devais tourner aux alentours de 35 000 francs, je sais pas si ça vous parle. Et si vous voulez, il vient me voir et il me dit, Pascal, je connais des gars qui peuvent t'aider à doubler tes revenus. Je lui dis, écoute, déjà, montre-moi que tu es capable de doubler les tiens, puis on va voir ce que ça donne. Ça, vous voyez, c'était pour vous dire la grande ouverture d'esprit que j'avais à l'époque. Et puis il me dit, non, mais je te promets, ils peuvent t'aider à doubler tes revenus. Je dis, non, mais montre-moi. Puis il me dit, oui, mais moi, j'ai pas ton talent. Flatteur, le petit. Et donc, il m'invite une fois, il m'invite deux fois, il m'invite trois fois. Puis ce qui était bien, il venait chercher une information, il allait chercher chez moi un rêve. Et à l'époque, j'avais un rêve, c'était de partir aux États-Unis. C'était d'aller voir les paysages, vous savez, des films. Enfin, moi, c'était mon enfance, hein, John Wayne, quand John Ford faisait ses films avec, vous savez, Monument Valley, les Three Sisters. Enfin, bon, moi, j'étais là-bas, je trouvais ça génial. Et à un moment, vous savez, je viens juste de me faire licencier après 6 ans de bons et loyaux services dans la photocopie. Je quitte l'entreprise et je dis, tiens, je m'en vais vers de nouvelles aventures. Et début août, je reçois une carte postale de Xavier, avec une photo du Texas, et qui me fait « On passe un séjour superbe aux États-Unis, on pense bien fort à toi, on t'embrasse, Xavier et Sylvie. » Je lui dis « Mais comment il fait, lui ? Comment il fait ?» Je lui dis « Mais je gagne de l'argent, je ne vais pas aux États-Unis, lui, il y va, il y a un truc, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et je ne comprenais pas, et puis à un moment, j'ai dit « Ça, je sais que... » Enfin bref, si vous voulez, vous imaginez ce qui se passe à la suite. Il m'appelle « Salut Pascal, on est rentré, ça va ?» Je dis « Ouais, je sais. Tu veux m'inviter, c'est ça ? Ok, on sait où ?» Et donc, je vais à la présentation de l'information. Et là, si vous voulez, ce soir-là, j'arrive. C'était une présentation publique. Et bien sûr, moi, je me mets dans le fond, si vous voulez, parce que je ne vais pas me mélanger au peuple. Chef des ventes dans la photocopie, ça rigole pas quand même. Hein. Et donc, je me mets dans le fond et je vois un gars, si vous voulez, sur scène qui était en train de se liquéfier. Vous savez, il a oublié son kit 3 éponges, une sous chaque bras, une dans le bas du dos, vous voyez. Il l'avait oublié et puis il y avait une énorme flaque d'eau sous ses chaussures. On sentait que ça allait pas fort, et c'était son premier concept en public, le pauvre Patrick, je me souviendrai toujours de son prénom, et il allait faire partie de ma lignée après, et donc Patrick, c'était son premier, ça devait durer 45 minutes de présentation, en 20 minutes c'était bouclé, il avait oublié la moitié des trucs, et moi j'avais rien pigé, mais rien de rien. Donc je regarde ça, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est bizarre et tout. Puis l'autre là, j'étais là du style, la peau d'allure, c'est quoi ça? Enfin bon, j'étais dans la critique, mais alors je peux vous dire à fond. Hein. C'est pour vous dire d'ailleurs un truc, c'est que moi ce qui m'a retenu, c'est de savoir que ce gars il était capable de se liquéfier pendant 20 minutes sur place. Je me suis dit bon sang, il y a un truc un peu balèze derrière quand même, parce que pour qu'il fasse ça, il faut qu'il y ait quelque chose quoi. Et donc après, donc il prend un suivi, Xavier, il vient me voir, il fait son travail de complément d'information, il a bien joué son coup. Il me fait signer le contrat et après il me dit tu viens au séminaire. Ok. Je dis c'est quand le séminaire ? C'est dimanche. Ah non, moi le dimanche, mon pote, je joue au foot moi. Moi, tu ne me vois pas au séminaire le dimanche. Il me dit, si, si, tu viens. Je dis, non. Je dis, moi, je joue au foot. Ok, donc un mois passe. Il me rappelle le mois d'après. Il me dit, Pascal, il y a un autre séminaire. Je dis, ouais, mais moi, j'ai un autre match de foot. Donc, si tu veux bien, on va attendre un peu. Et puis, il me refait le même sketch, si vous voulez, le mois d'après. Et puis là, je lui dis encore non. Puis là, du coup, vous savez, je lui dis, non, j'ai un match de foot. Puis en plus, ce soir, il y a un truc anniversaire. Et là, Xavier, au téléphone, il fait, bon, Pascal, c'est bon maintenant. Hein, si ton avenir, c'est, si le foot, c'est plus important que ton avenir, celui de ta femme et de tes enfants, t'as raison, reste dans ton canapé. Moi, je dis quand même, je dis, Xavier, t'es pas gentil, là. Hein. Et là, il me dit, bon, il y a un séminaire et il faut que tu viennes avec nous, c'est hyper important. Et là, je dis, ok, bon, bah, dis-moi où c'est. Il me dit, non, mais viens. Bah, il me dit, c'est rendez-vous au PH d'Angers. Alors moi, j'habite en Vendée, il me dit d'aller au PH d'Angers. Et je lui dis, c'est à quelle heure? 8h du matin. Je dis, mais ça va pas, non? Le dimanche, je me repose, tu m'emmènes à 8h le matin au péage d'Angers, mais Pascal, ok, c'est bon, j'arrive. Alors je prends ma voiture, je roule, j'arrive quelques kilomètres avant le péage d'Angers, vous savez, et juste avant le péage, j'ai un petit ange et un petit diable. Le petit ange, il me dit, vas-y, fonce, le petit diable, il dit, recule, va faire du foot. Et il dit, fais demi-tour, va jouer au ballon. Et puis je sais pas pourquoi, j'ai écouté l'ange, et là je me retrouve après le péage. Et alors là, c'est une image que j'ai toujours en tête. J'arrive 8h du matin, il faisait à peu près beau. Et là, je passe, je vois une Mercos, vous voyez, les vieilles Mercos blanches qu'on voyait dans les films de Belmondo à une époque. C'est la bonne Mercos blanche. Puis je vois deux mecs hyper balèzes de chaque côté de la Mercedes. Tous les deux, costume noir, cravate noire, chemise blanche. Puis il est costaud, hein, pas des gars qui rigolent. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis tout à coup, je vois mon petit Xavier qui est derrière, qui dit, coucou, c'est là! Oh, je dis le truc, et là je dis bon, ok, alors il me dit assieds-toi, vas-y, mets-toi derrière. Alors je m'installe derrière, vous savez, la place arrière, tout à coup je vois les deux gros balèzes qui arrivent, blam, en sandwich. Je sens le truc où je vais pas m'en sortir, vous savez. Et là, tout à coup, la Merco se démarre, je suis dedans, et je dis mais on va où? Et là il me dit on va à Yvetot. Je dis quoi Yvetot? Mais c'est où Yvetot? Je dis c'est... Il me dit c'est juste au-dessus de Rouen. Je dis mais ça va pas non? Et moi, à l'époque, j'avais pas de téléphone pour prévenir à la maison que j'allais rentrer à deux plombes du mat. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est quoi ce truc? Alors, on part à Yvetot, d'accord? On arrive au séminaire, vous voyez, le parking blindé, plus une place de libre. On arrive, parce qu'on est arrivé carrément pile poil pour le début. Il me demande 50 balles à l'entrée, je dis, en plus, faut payer. Ils me mettent, si vous voulez, en plus, on arrive, et comme la salle était pleine, il y avait 1200 personnes, je me retrouve au milieu de ça, je dis, on s'assoit où? Il n'y a plus de place, faut que je reste debout. Je te dis que ça commence à bien faire, et là je dis, mais ça ne va pas durer longtemps, et là tout à coup, il y a un gars qui arrive sur scène, vous savez, je ne le vois pas, il est gros comme ça dans le fond, il commence à parler, et bon, j'ai pris des claques, j'en ai pris toute l'après-midi, je vous promets, à 18h, j'étais knock-down, je tenais plus debout, j'étais là. Déjà, j'étais un mètre au-dessus du sol, parce que j'ai l'impression que j'avais des ailes qui me poussaient dans le dos, un truc allait se passer. C'était le petit ange de tout à l'heure, certainement. Et en réalité, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je me retrouve dehors, et là, je suis un peu hébété, toute ma vie reprenait un truc, j'ai dit, tout ce que j'ai fait avant, ça vaut pas un pet de lap, quoi. Et le gros coup, vous savez, que vous prenez sur la tête, pas possible. Alors, tout à coup, j'ai toute la lignée qui arrive vers moi, vous savez. Toute la lignée, vous savez, ils se disent, tiens, il est là, maintenant, on va le choper, lui, hein, faut pas qu'il s'en aille. La lignée arrive, et il me regarde, il me fait, alors, c'était bien? Ouais, c'était bien. Puis après, ils me disent, bon, alors, tu vas démarrer? Ouais. Puis après, ils me disent, mais... Et tu veux travailler avec qui? Puis là, je les regarde tous. Ben, je dis avec aucun d'entre vous. Et il me dit, mais tu vas travailler avec qui? Ben, je dis avec le gars que j'ai vu sur scène, là. C'est lui qui m'intéresse, c'est pas vous, hein. Et le gars qui était sur scène, vous savez qui c'était? C'était Michel Labazor. Et je commence donc ma vie dans la vente directe par réseau, comme ça. Je peux vous dire un truc, c'est que j'ai mis du temps à démarrer. J'ai fait 3 refus d'obstacles sur les séminaires, mais en à peine un an et demi, j'avais mis 457 personnes dans mon réseau. Et je peux vous garantir que ça a déclenché rapidement. Mais ce qui était bizarre, si vous voulez, dans cette histoire-là, c'est qu'en réalité, je ne pouvais pas travailler avec Michel parce que Michel ne faisait pas partie de ma lignée d'aide. Et Michel s'occupait du réseau dans lequel j'étais de façon bénévole, si vous voulez. Michel a toujours eu un grand cœur et s'occupait de façon bénévole. Mais souvenez-vous d'une chose, Michel s'occupe d'une équipe de façon bénévole. On est en 92. Moi, mon objectif, c'était de bosser avec lui. Et en réalité, ce que j'ai fait pendant ces années-là, je me payais des voyages aux États-Unis pendant 3 semaines pour courir à Phoenix, en Arizona, à côté de Michel Labazor. Parce que pendant que je courais avec lui à 5h du mat, parce qu'il faisait chaud à 40 degrés quand vous étiez à Phoenix, eh bien, je discutais avec lui, j'échangeais avec lui et j'apprenais avec lui. J'allais chercher l'information, j'allais puiser auprès des meilleurs les informations qui allaient me permettre de devenir quelqu'un de meilleur. Et ça, c'était énorme. Et si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que le temps a passé. Moi, j'ai suivi Michel, j'ai suivi cet homme qui m'a toujours inspiré et qui m'inspire encore. Et si vous voulez, ce qui est impressionnant, c'est qu'en 2003, Michel vient me voir. Et vous savez quoi ? Il me propose d'être un de ses associés. Génial. Et vous savez quoi ? J'ai dit non. En réalité, j'ai travaillé pendant des années pour être à ses côtés. Et il vient me voir. C'est lui qui me demande et je dis non. Et c'était fou parce qu'il est venu me voir une fois, il est venu me voir 2 fois, il est venu me voir 3 fois, il est venu me voir 4 fois, il est venu me voir 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Alors je peux vous dire que là, Babette, à un moment, elle lui a dit « Mais arrête de l'embêter, Pascal, tu vois bien qu'il ne veut pas y aller et tout. » Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que à la 9e fois, c'est moi qui ai appelé Michel et c'est moi qui ai dit « Michel, c'est bon, ça y est, je suis prêt, je démarre. » Vous voyez, mais tout le temps qu'il a passé à venir... On parlait ce midi avec des gens à table, il y en a qui disaient « Mais c'est quoi la différence entre être offreur et demandeur ?» Ben Michel, il était quand même offreur, et moi, j'étais pas prêt à y aller, et du jour où j'étais prêt, c'est moi qui lui ai fait signe, et je suis arrivé et, comme une bombe, et on est parti, quoi. D'accord ? Et à l'époque, en 2005, on a claqué le star en 1 mois et demi, c'était 7000 PV plus 700 PV le mois de qualification, ça faisait 7700 PV à faire, en 1 mois et demi, c'était réglé. D'accord ? Donc ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est juste une chose, c'est que Michel a tenu une relation en 7e génération. C'est devenu aujourd'hui une de ses pattes qualifiantes tuteurs. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas vous oublier dans votre construction de réseau. Il faut toujours aller loin en profondeur pour aller chercher la relation et travailler avec les gens. Donc ça, c'est la première des choses. Et en même temps, vous savez, des fois, quand on démarre ce type d'activité, on se pose toujours un tas de questions. On se demande parfois si on est capable. Et puis on se pose aussi bien sûr la question de savoir est-ce que je vais pouvoir le faire, est-ce que c'est quelque chose de facile pour moi. Alors moi je vais vous expliquer ce que j'ai vécu aussi dans ma vie. Vous savez, quand j'ai quitté l'armée, je vous l'ai dit, j'ai quitté l'armée, j'étais engagé, j'ai rompu mon contrat un peu plus tôt que prévu. Et là je me suis retrouvé comme ça, j'ai dit mon beau-père, il dit tu vas faire quoi ? Je dis j'en sais rien, moi je sais pas ce que je suis capable de faire. Il me dit bah tu vas vendre des voitures. Ah d'accord, ok, super. Donc, je me retrouve à la concession Renault, aux Herbiers. Et donc là, si vous voulez, la première expérience que je vis, c'est un gars qui s'appelle Patrice Fragas, qui est mon tuteur dans la voiture, et qui me dit « Bon, bah, Pascal, on va aller prospecter. » Je dis « Ouais, ça veut dire quoi, ça, prospecter ?» Bah, il me dit « On va aller frapper aux portes. » Ah ouais ? Je dis « Mais frapper, tu veux dire comme ça ? On frappe, puis on attend que la porte s'ouvre, quoi. Bah, » il me dit « Ouais, c'est exactement ça. » Je dis « Ah ouais, d'accord. Oula. » Voilà, je me sentais pas très bien, vous savez, quand il m'a dit ça. Puis on s'en va dans un. Je me souviens, c'était à Pouzauges, pour ceux qui connaissent la Vendée. Enfin, moi, je m'en vais à Pouzauges, et puis je me retrouve dans un immeuble. Et Patrice, il me colle devant une porte, puis il descend. Il se met en contrebas dans les escaliers, puis il me regarde, vas-y, frappe. Il me dit, frappe, ok. Puis là, vous savez, dans ma tête, c'est pourvu que ça ouvre pas, pourvu que ça ouvre pas, pourvu que ça ouvre pas, pourvu que ça ouvre pas. Puis là, la porte s'ouvre. Ah, bonjour, Pascal Brault, Renault, bonjour. Alors, voilà pour la voiture. Et puis, OK, entrez. Ah, d'accord, OK, je rentre. Et là, je me retrouve avec une personne, je discute avec elle, je ressors. Le Fragas, il était plié en deux. Il me dit, alors, ça s'est bien passé ? Je dis, ouais, très bien. Et alors ? Il me dit, tu sais ce qu'elle a comme voiture ? Tu sais combien elle a de kilomètres sur sa voiture ? Tu sais de quelle année la première mise en circulation et tout ? Non, non, par contre, elle a un chat qui est super sympa. Elle a à côté 2 enfants qui sont adorables et tout. Il dit, là, t'es là pour vendre des bagnoles quand même. Ah ouais ? Ah bah oui, j'ai pas pensé, là. Enfin... C'est pour vous dire que là, j'étais en train de faire mon expérience, si vous voulez. Puis après, je me suis mis à frapper à plusieurs portes. Puis un jour, je me souviendrai toujours de ça, je suis à 13 Septiers. Et là, j'arrive, même chose, vous savez, je costume et je frappe à une porte. Et là, la porte s'ouvre et je vois un monsieur. Je dis, bonjour, je voudrais voir monsieur Baron. Il dit, oui, il est là. Prenez la première porte à droite. Alors moi, je prends la première porte à droite, je rentre dans la maison, je m'en vais voir monsieur Baron, première porte à droite, j'ouvre la porte, je vois un cadavre, 4 candélabres. En réalité, c'était Monsieur Baron qui était allongé. Et là, moi, j'arrive, si vous voulez, il y avait des gens qui étaient à droite, à gauche, ils étaient en train de pleurer, bien sûr, le pauvre, ils étaient devant le corps. Et moi, je venais prospecter pour vendre une voiture à Monsieur Baron. Je savais bien maintenant qu'il n'allait pas m'en acheter. Et quand je me retrouve dans cette situation, je dis, bon, bah, ok, alors, vous savez, je prends le... Puis je fais le signe, messieurs, dames, au revoir. Et là, demi-tour, je sors dans la rue, je suis là, je suis bidonné, je suis mort de rire. Et au même moment, il y a des gens qui arrivent pour aller voir monsieur Baron, mais eux, ils n'avaient pas la même tête. Enfin, c'est pour vous dire que, en réalité, j'ai vécu plein de choses dans ma vie de commercial qui m'ont fait apprendre le métier et qui m'ont fait aussi en même temps apprendre que malgré tout, vous savez, tout est expérience. D'accord ? Il n'y a pas d'échec en réalité dans la vie, il n'y a que des expériences à vivre. Et bon, voilà, moi j'en ai vécu plein. J'ai sonné à des portes, je suis rentré tard le soir à faire des trucs. Enfin bref, si vous voulez, dans l'histoire, moi j'ai appris à communiquer comme ça. Pour vous dire, pour performer à l'époque, comme je travaillais en Vendée, j'apprenais le patois avec Constant et Maurice sur Alouette FM le matin. C'est pour vous dire, pour comprendre ce que me disaient les agriculteurs pour leur vendre des bagnoles. Mais oui, parce que j'avais que ça pour vivre, moi. De toute façon, il fallait que je bouffe. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis parti, j'avais rien. Quand on m'a déposé sur la place d'Ardelais, j'avais 10 francs dans ma poche, j'avais 10 clopes dans mon paquet de Marlboro, et maintenant, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. D'accord? Ma mère, elle m'a laissé comme ça. Et quand vous êtes comme ça, ben, y a un moment, il faut y aller. Tu ne peux pas passer ton temps à compter fleurettes, à dire est-ce que ça va le faire ou ça ne va pas le faire. Moi, j'avais le couteau entre les dents, il fallait que ça passe. Et quand vous êtes comme ça, ben, y a pas de notion, si vous voulez, de « est-ce que j'y vais, est-ce que ça ?» Vous savez quoi, aujourd'hui, vous avez plein de gens, ils sont là, ils ont tous des problèmes. Allez, qui ici a des problèmes? S'il vous plaît, non, allez, jouez le jeu, levez la main, qui ici a des problèmes? Alors, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez prendre un bout de papier et vous allez noter sur ce bout de papier le plus gros problème que vous avez. C'est le plus gros problème que vous avez. Vous prenez ce papier, vous allez le plier en quatre, d'accord? Et il y a quelqu'un qui va passer avec un chapeau et vous allez mettre ce gros... Alors là, vous le mettez hein, dans le chapeau. D'accord? Puis après, vous savez ce qu'on va faire? On va repasser avec le chapeau et vous allez piocher au hasard un papier dans tous les problèmes qui ont été mis à l'intérieur. Et quand vous allez ouvrir le papier, il y a peut-être un moment où vous allez vous dire « Tiens, j'aimerais bien récupérer le mien maintenant, si c'était possible. » Parce que le mien, ben, il était mieux que celui que je viens de récupérer, tu vois. Parce que, vous savez quoi dans l'histoire? Vous nous regardez, mais bien sûr, et puis vous nous regardez, vous dites, mais toi, tu sais pas ce que je vis, moi. Toi, t'es tuteur, toi. Mais c'est facile pour toi, t'es tuteur. Ben oui, mais on a quand même un peu bossé pour arriver là, quoi. Hein. On a pris des claques, hein. On est allé au casse-pipe, on a tapé dedans, on a fait 2-3 trucs, on a fait, je me souviens à l'époque, voter les lois pour le VDI, on a fait 2-3 manifs, on s'est un peu énervé sur le sujet, on a défendu bec et ongle cette profession pour que vous puissiez avoir le confort de l'exploiter aujourd'hui, avec un projet comme celui d'Enel. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, si vous voulez, c'est pas la peine, on va pas se tirer les draps là-dessus, mais ce que je veux dire juste, c'est que on a travaillé pour arriver là. Moi, pendant des années, j'ai nourri mon affaire avant qu'elle me nourrisse. J'ai travaillé à côté de mon business, j'ai travaillé à côté de ce projet-là. Moi, j'allais construire des réseaux, je rentrais à 2h du mat, des fois, et puis 3h après, j'étais debout pour aller courir, pour faire mon sport, pour aller au boulot à 8h, comme tout le monde. J'ai fait ça. Alors aujourd'hui, je me marre parce que je dis, ouais, maintenant je vis dans le confort, j'ai pas de rendez-vous le matin, je me lève quand je veux, mais enfin avant, je peux vous dire que j'ai mis 2 ou 3 heures. Hein. Moi, je me suis vu des soirs rentrer chez moi, prendre une douche et repartir au boulot, j'avais pas le temps de dormir, c'est comme ça allait plus vite. Bah oui, ça, on a pas le temps. D'accord? On change juste la chemise et on repart. Mais tout ça pour vous dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des problèmes qui vous causent des soucis, c'est ça? Vous connaissez ce sketch des inconnus? Et en réalité, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la grande dangerosité de la vie, c'est de rester figé sur le problème. D'accord? Moi, je vois vos tuteurs, Nicolas et Sabrina, bah, je peux vous dire que c'est quand même pas rien, quoi. Je veux dire, ils en collectionnent 2 ou 3 des problèmes. Nicolas, enfin, il y a un an de ça, vous vous souvenez, il était en fauteuil roulant, il s'est quand même un peu pété la jambe. D'accord? Ça n'a pas trop rigolé. Triple fracture, voilà, c'est fait. Fallait que je m'en débarrasse. Et quand on en est là, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien, il a tenu bon, il l'a fait son week-end VIP. Ils l'ont fait leur week-end VIP. Hey, c'était pas rien. Quand j'ai vu Nico, j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Ben, il me dit, voilà, tu te pétais. Ben, je dis, tu fais comment? Ben, c'est pas grave, on y va, on fonce, on est parti, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est admirable. C'est qu'on va tous avoir une réaction très différente par rapport au problème qui se situe en face de nous. Vous savez ce que j'expliquais, moi, l'autre jour? Vous avez un gars, il se lève le matin. Ben, il arrive. Il s'en va pour prendre son café. Sa cafetière lui pète à la tronche. Eh ben, ça y est, c'est foutu, quoi. Sa journée, elle est morte, quoi. Le mec, il n'a pas eu son café à 6h30 du mat, il est fracassé, quoi. Toute la journée, on va entendre parler du café dans le bureau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mon café. Alors si j'ai pas mon café, je suis pas bien. Ouin, ouin, chon, chon. Vous voyez ce que je veux dire? Toute la journée, il va nous le faire, celui-là. Oui. C'est celui qu'on a envie de côtoyer, vous voyez, au quotidien, celui qui va nous faire rêver, quoi, celui-là, ça c'est sûr. Mais à côté de ça, vous avez un entrepreneur, sa cafetière, il lui pète à la tronche le matin. Vous savez ce qu'il fait l'entrepreneur? Il s'en fout. D'accord, la cafetière, on s'en fout, je prendrai un café ailleurs, j'irai. Il va trouver une solution, il va partir sur autre chose, parce que des problèmes, il en gère à l'appel tous les jours. Et il ne s'arrête pas à celui-là. Vous comprenez ça? La vraie problématique qu'on a au quotidien, c'est qu'on est figé sur le problème, mais pas sur la solution. Et aujourd'hui, on sait que si on veut réussir dans un projet comme celui-là, il va falloir trouver plein de solutions. Parce que ça ne va pas s'arrêter là, ça ne va pas s'arrêter à la cafetière. D'accord? Ce serait trop bien. Il va falloir travailler sa liste de noms, travailler ses invitations, trouver les moyens d'avoir le courage de prendre son téléphone de temps en temps pour appeler des gens où on n'est pas forcément à l'aise. Et ça, vous savez, je ne vous en ai pas parlé ce matin, je vous avais dit que je vous en parlerai à la fin, sur le fait d'appeler quelqu'un quand il vous fait peur. Vous vous souvenez de ça? Eh bien, comprenez une chose, c'est si vous appelez quelqu'un qui vous fait peur, la meilleure des choses à faire, c'est de lui dire « Ah, c'est simple, moi j'appelle quelqu'un qui m'impressionne, je lui dis « Écoutez, voilà, je vous appelle, j'avoue que je ne suis pas très à l'aise parce que vous m'impressionnez beaucoup. Vous avez beaucoup de succès dans la vie, j'ai pas, moi personnellement, je dirais, aujourd'hui eu la possibilité d'aller aussi loin que vous dans ce que vous êtes en train de mettre en place, mais je suis en admiration sur un certain nombre de points par rapport à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, et c'est pour ça que je souhaite vous mettre en relation avec quelqu'un que je connais, qui est en train de développer de nouvelles activités, et je veux que vous le rencontriez. C'est pour ça que c'est tellement important que j'ai vraiment surmonté la peur que j'avais de vous appeler pour que vous puissiez le rencontrer. Voilà, ben vous verrez que la personne, elle vous dira, ben non, faut pas vous, voyons. Et puis comme vous êtes en train de lui dire ça, il va dire, ben oui, ben vous inquiétez pas, je vais aller le voir ce monsieur, hein, il n'y a pas de problème. Bon bref, mais vous verrez, si vous dites ce que vous ressentez, ça va beaucoup plus vite. Très souvent dans la vie, on est dans cette... Comment est-ce que je peux vous dire ça? En réalité, vous avez tous des soucis, vous avez tous des problèmes. Mais la seule chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que vos soucis, vos problèmes sont à la hauteur de ce que vous ne faites pas. Écoutez ce que je vous dis. Je pense que vous l'avez entendu en plus. Mais vos soucis, vos problèmes sont à la hauteur de ce que vous ne faites pas. Parce que, en réalité, très souvent, il y a plein de choses qu'on devrait faire, on sait qu'on devrait les faire. Soit on procrastine, soit on fait la vache. Il était une fois une vache, vous savez, c'est alors je t'explique, moi quand même, j'ai deux ou trois excuses à te donner assez valables pour t'expliquer pourquoi je ne le fais pas. Hein. Est-ce que ça vous arrive d'amener des bonnes excuses, bien béton, bien structurées pour ne pas faire quelque chose? Ouais, ça vous arrive. Eh bien, c'est pas bien, c'est vilain. Parce que de toute façon, il faut que vous compreniez quelque chose. Votre vie ne pourra jamais avancer si vous êtes dans le monde des excuses, c'est pas possible. Alors moi, des excuses, j'en ai aussi, hein, j'en ai plein. Hein. Moi, je dis pas amen à tout et je fais pas tout bien, loin de là, parce qu'il y a longtemps que je serais plus qualifié et plus riche. Mais quoi qu'il en soit, le travail que je fais en permanence, c'est un travail quotidien sur mon attitude. Et je vais vous dire une chose, il y a une chose qui est claire pour chacun d'entre vous. Il va falloir, d'une façon ou d'une autre, changer vos habitudes pour changer votre attitude, pour changer d'altitude. Vous pourrez pas... évoluer si vous n'évoluez pas déjà au niveau de vos habitudes. Si aujourd'hui vous gagnez de l'argent, si vous êtes à 1000 ou 1200 euros par mois, si vous ne changez pas dans ce métier, vous ne gagnerez pas plus d'argent, ce n'est pas possible. Ce qui fera la différence, c'est juste que vous êtes en train de changer, que vous êtes sur le chemin, que vous êtes en train de travailler sur vous, vous êtes en train de faire de vous des personnes meilleures. C'est primordial à comprendre. Et par rapport à tout ce que je suis en train de vous expliquer, je reviendrai sur un élément qui me semble important. C'est la notion d'objectif. Vous tous qui êtes ici, je pense que vous avez des objectifs. Oui ? Et à partir du moment où vous avez calé votre objectif, est-ce que vous êtes capable de vous engager dans cet objectif ? Vous avez 5 grenouilles sur un nénuphar. Il y en a une qui décide de sauter, il en reste combien ? 4 ? Ben non, 5. Elle a juste décidé de sauter. Elle n'a pas dit qu'elle allait faire. Combien ici, il y en a qui ont décidé le 31 décembre d'arrêter de fumer le 1er janvier, et qui sont toujours la clope au bec. Il y en a plein. On a tous pris des décisions qu'on n'a pas, appliquées, ou on n'est pas allé plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la notion d'objectif, elle est importante, parce que quand vous avez fixé un objectif, il faut vous engager à le respecter. Et quand vous respectez votre objectif, c'est vous que vous respectez. Vous savez, moi, quand je fais signer un contrat à nouveau, la personne, je lui dis, le contrat, vous le signez. Il me dit, mais je le signe avec qui? Ben, je dis, vous le signez avec vous, déjà. Parce que vous vous engagez dans ce projet, et ce projet, c'est à vous qu'il appartient maintenant. Ça marchera que par vous, et si ça échoue, ce sera grâce à vous. Mais il n'y aura personne d'autre qui sera à mettre en avant là-dessus, ce sera vous et vous. Voilà, c'est simple. Donc prenez en considération le fait que quand vous êtes dans une notion d'objectif, il faut vous engager. Il ne faut pas vous impliquer, vous connaissez la différence entre impliquer et engager. Hein, c'est l'assiette au bacon. Dans une assiette au bacon, eh bien, la poule elle est impliquée, le cochon lui il est engagé. Il n'y a pas de secret. Hein, il y a quand même un peu laissé sa peau quoi, pour faire du jambon. L'engagement il est là. Et je pense que c'est ce qu'il faut que vous compreniez. Vous avez besoin de vous engager. Vous êtes dans une belle équipe, je vous promets, vous avez une belle équipe, vous avez des beaux leaders, vous avez une belle croissance. Vous bénéficiez aujourd'hui d'un certain nombre de choses qui peuvent vous permettre d'aller très très vite. Moi j'étais en train de discuter ce midi avec les personnes qui étaient à table avec moi, et ce qui m'a impressionné, si vous voulez, c'est que c'est la façon dont on peut se projeter avec ce type de projet aujourd'hui. Parce que aujourd'hui là, vous ne ressentez peut-être pas les choses, mais moi je sais que dans 2-3 ans, peut-être même moins, je ne sais pas, mais je vais dire 2 ou 3 ans, il y a des personnes ici qui vont gagner beaucoup d'argent. Mais vous ne le savez pas encore. Et dans l'idée, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que vous êtes aujourd'hui des pionniers. Vous savez, on nous parle de pionniers nutrition. On va être des pionniers à ce niveau-là. Ça va nous permettre de rentrer dans une nouvelle ère. Il y a une chose, si vous voulez, qui va se passer, c'est que de toute façon, vous allez faire partie de ces personnes qui vont être en vue. Vous savez, moi, il y a une chose qui m'étonne aujourd'hui. Je suis tuteur, mais je deviens, par rapport à cette qualification, une personne publique. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je dis, à ce que je fais, même si je me lâche un peu de temps en temps. Mais je suis quand même une personne publique. Parce que je dois être, vis-à-vis de pas mal de personnes, un exemple. Je dois représenter un exemple. C'est pour ça que là, vous me voyez arriver en costume. Je ne suis pas mis en short et en tongs, ça aurait fait désordre. Mais je pense que par rapport à ça, l'exemplarité, elle est de mise. Et elle sera de mise pour chacun d'entre vous demain, et je vous le souhaite. Parce que je pense qu'ici, il y a un certain nombre d'entre vous qui voulaient aller au tutorat. C'est ça, hein ? Bon, ouais, c'est pas très fort encore, mais bon, ça va venir. Comprenez ça, c'est important. Il faut rentrer maintenant dans vos objectifs. Je pense que c'est la première des choses. Il faut prendre des décisions, mais pas des décisions à la légère. Enclenchez un process maintenant, parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez pas demain. Là, vous êtes en train de vivre un week-end qui va laisser, bien sûr, en vous des émotions, qui va laisser peut-être des éclats de rire pour certains, qui va laisser, je dirais, des solutions peut-être aussi pour d'autres. Mais utilisez la force que vous allez récupérer dans ce week-end pour vous mettre au travail dès maintenant. Dès maintenant. Je vous demande ce soir, avant de partir, de prendre du temps, de vous poser, de rester tranquille dans un endroit, et puis de réfléchir à ce que vous voulez vraiment faire de votre vie, de ce que vous voulez faire de votre avenir dans ce projet, de ce que vous avez envie vraiment, je dirais, d'acquérir pour l'avenir de vos enfants, pour vous, pour eux, tous ceux que vous aimez demain. Parce que c'est important que vous le fassiez. Vous savez, Hélène Keller disait « À quoi ça sert d'avoir la vue dans la vie si on n'a pas la vision ?» Et c'est une vérité, parce que cette femme était aveugle, elle avait cette logique, et puis je voudrais juste vous apporter un dernier point et une phrase que j'ai prise dans Le Petit Prince, c'est que on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est important de comprendre que vous êtes dans une affaire de cœur. Vous savez, il y a des gens, quand je les vois travailler, ils travaillent trop avec leur tête. S'ils travaillaient avec leur cœur, ça irait mieux. Et moi, ce que je vous conseille à tous, c'est de commencer à travailler avec votre cœur. Travailler avec vos tripes. Travailler avec la foi que vous avez en vous et la foi que vous avez en vos compagnons de route. Et maintenant, ce que vous avez besoin de faire, vous savez ce que c'est ? C'est d'accélérer pour tout péter. Merci.